Bonjour à tous. Très content d'être ici avec vous ce matin. J'avais hâte d'être ici. Ça fait plusieurs fois que votre pasteur m'invitait, puis il y avait toujours des éléments qui faisaient en sorte que je ne pouvais pas être là. Mais ce matin, je suis vraiment très, très béni, très, très heureux de faire partie de la belle famille Nouvelle Vie. Quel privilège nous avons. Et j'apprécie beaucoup vos pasteurs, Ben et Sophie. Ils ne sont pas là ce matin, mais j'en profite quand même pour leur dire que je les apprécie, que vous êtes bénis de les avoir. Et j'apprécie aussi l'équipe pastorale de cette église. Merci, Livio, pour ton animation ce matin. Et ça faisait-tu drôle de te voir toi-même sur la vidéo? Je me mettais à ta place. C'est comme, c'est moi. Ça faisait drôle un peu. Hein? Donc, ce matin, je vous transmets les salutations de Nouvelle Vie Drummondville. Vous savez, on a démarré l'église, on m'a présenté comme nouveau pasteur en février 2020 pour une première réunion en mars 2020. Et comme vous savez, en mars 2020, il n'y a pas eu de réunion. Ça a été le début de la pandémie. Et donc, dans les dernières années, on a fait ce qu'on a pu. Mais là, depuis quelques mois, on a un local qui est installé, qui est rénové. Et à chaque semaine, on voit le Seigneur agir de façon extraordinaire. Des âmes qui sont sauvées, des connexions entre les gens. Et j'aimerais vous remercier ce matin parce que vous avez une part dans ce miracle, par vos prières, par vos dons. Vraiment, je vous remercie de contribuer à tout ce que Dieu fait à Drummondville. Et je vous transmets les salutations de ma gang. Et je vous lance l'invitation aussi, si ça vous tente de venir faire un tour à un moment donné, de venir nous voir à Drummondville. Vous êtes les bienvenus. Ce matin, je suis vraiment heureux de prêcher dans cette série sur l'Évangile de Jean, Découvrir Jésus. Et j'ai un texte formidable aujourd'hui. Je suis dans Jean 11 et c'est le texte de la résurrection de Lazare. Combien vous êtes chrétiens, vous avez déjà lu ce texte? Tu peux lever ta main quand je fais comme ça. Ah, OK, oui. Plusieurs connaissent ce texte. Donc, vous savez que ça va être bon, même si je prêche pas bien. La Bible est tellement bonne, ce texte-là est tellement puissant que vous allez être bénis ce matin, je vous le garantis. Et le titre de mon message est « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Est-ce que vous le croyez ce matin? Le thème de Jean 11 n'est pas la résurrection de Lazare, mais le thème de Jean 11, c'est la foi. Et on va le voir. Constamment, alors qu'on lit ce texte, on voit le thème de la foi qui est mis de l'avant. Jésus, par cette résurrection de Lazare, Jésus, dans tout ce texte, a le désir d'implanter la foi dans le cœur de ses disciples, d'implanter, de fortifier la foi dans le cœur de ceux qui allaient vivre cette résurrection. Et ce matin, le désir de Dieu pour moi et pour chacun d'entre nous, Dieu veut venir fortifier ta foi. Dis à la personne à ta droite, Dieu veut fortifier ta foi ce matin. Tu peux le dire pour vrai, dis-le. Yes! Alors, on attaque ensemble ce matin le chapitre 11 à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui lui essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Et déjà, ça part fort. Dans les premiers versets, Jésus donne le ton. Jésus donne le ton à ce qui va prendre place. Et on voit tout d'abord que les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, envoient des messagers vers Jésus pour lui dire que Lazare était malade. Et Lazare était vraiment malade pour qu'ils envoient des messagers. Hein, ce n'était pas un petit nez qui coule, ce n'était pas une petite grippette, ce n'était pas une COVID de septième vague. Okay? C'était une maladie très, très grave. Et il était sur le point de mourir, au point qu'elles ont dit, « Il faut que Jésus vienne, il faut que Jésus vienne le guérir, sinon il ne passera pas à travers, sinon il va décéder, sinon il va mourir. » Et lorsque Jésus reçoit cette nouvelle, il va déjà faire une déclaration formidable. Il va dire, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais servira à la gloire de Dieu. » Et Dieu et Jésus n'ont jamais pris de court avec nos défis, avec nos épreuves, avec nos difficultés. Jésus n'est jamais surpris par ce qui nous surprend dans la vie. Combien ça vous arrive d'être surpris parfois dans la vie par une mauvaise nouvelle, par une perte d'emploi, une maladie, un conflit, quelque chose qui se passe? J'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus n'est pas pris de court. Jésus connaît nos doutes, nos douleurs, nos défis, nos épreuves, et il est capable de les transformer pour sa gloire. Il est capable de prendre les choses douloureuses et difficiles dans nos vies et de les transformer afin de glorifier son nom dans nos vies et afin de fortifier notre foi. Combien vous le croyez ce matin? Moi, je le crois. Et dans ce texte, il va le faire, il va nous le démontrer. Et de croire que Dieu peut intervenir et agir dans nos vies, dans nos difficultés, ce n'est pas de faire du déni. Ce n'est pas faire comme si rien n'était. C'est de faire confiance que Dieu peut vraiment transformer ce qui est difficile, douloureux, et de le transformer pour sa gloire. Une de mes passions dans la vie, c'est le jardinage. Est-ce qu'il y a d'autres jardineux avec moi dans ce lieu? Ah, merci. Moi et toi, là, on est connectés. Y en a-t-il d'autres dans ce lieu de ce bord-là? Oui, OK, parfait. Super. Et quand on jardine, on vit toutes sortes de belles expériences qui nous montrent un peu des illustrations de la foi chrétienne parfois. Et l'autre fois, ben, je passais à côté de mon jardin, puis il y avait des bouts de jardin qu'il fallait que je mette au compost, qui n'étaient plus bons, des radis blancs qui étaient montés en graines, mais même en fleurs, donc il y avait des fleurs, il y avait de la roquette, puis elle était plus vraiment attrayante. Il y avait une couple d'affaires comme ça. Et j'allais tout prendre ça, puis mettre ça au compost, puis semer autre chose. Mais là, j'ai eu l'idée de prendre ce qui était plus bon, ce qui était destiné aux poubelles ou au compost. Puis je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose de comestible là-dedans que je pourrais utiliser pour une salade, par exemple? Là, j'ai goûté aux fleurs de radis. Hey, c'est bon. C'est délicieux, ça. C'est comestible. Ça goûte le radis. OK. Les feuilles de scie. Et là, j'ai commencé à cueillir un peu plein d'affaires dans ce que j'allais mettre au compost. Et j'ai fait avec ça une super bonne salade, délicieuse, avec des goûts piquants, sucrés, amers, avec une bonne vinaigrette. C'était délicieux pour les amateurs de salade dans ce lieu. Il n'y avait pas juste de la salade, il y avait aussi d'autres choses à côté pour ceux qui aiment la viande, bien sûr. Et je dis ça pourquoi ce matin, tout ça était destiné au compost ou à la poubelle. Mais j'ai trouvé là-dedans des ingrédients, des éléments pour faire un repas délicieux. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu prend des fois des situations de nos vies qui sont brisées, qui sont difficiles, qui sont douloureuses, puis Dieu vient puis fait quelque chose de beau avec ça. Est-ce que je peux entendre un amen? On arrive au verset 5. Au verset 5, ça dit ceci. « Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. » Tu vois, en quelques versets, on dit deux fois que Jésus aimait. Au début, c'était « Lazare, celui que tu aimes, est malade. » Et là, on est au verset 5 et ça dit « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Et parenthèse, ce n'est pas le nœud de mon message, mais Jésus était réputé comme quelqu'un qui aime les autres. Moi, ça me touche. Moi, ça me touche et j'aspire à avoir cette réputation-là, qu'on dise de moi, David, il aime les gens. David, il aime les gens qui l'entourent. Est-ce que vous aspirez à ça, vous aussi? Être comme Jésus, qui aimait Lazare, qui aimait Marthe, qui aimait Marie. Verset 6. « Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. » Et j'arrête ici. Il y a une maladie grave. Il est sur le bord de mourir. On aurait pensé que Jésus se serait précipité en courant avec ses disciples. Il aurait couru juste pour arriver au chevet de Lazare qui est mourant. Puis il aurait guéri. Mais non. Ici, Jésus va faire quelque chose. Il va attendre 2 jours de plus. Combien ici, vous comprenez que parfois, dans la vie chrétienne, il y a des moments d'attente. Tu peux lever ta main, là. Des fois, il y a des moments d'attente. Combien vous aimeriez que Dieu réponde plus rapidement à vos prières? On aimerait ça prier et que ça se règle instantanément. Hein? Êtes-vous comme moi? On aimerait ça, Seigneur, là, Tu vois mon problème financier? Règle-le, Seigneur. Paf, un chèque dans la poste, 100 millions de dollars, puis tout est réglé, puis la vie continue. Mais la réalité, c'est que comme croyant, on doit composer avec les délais. Pas juste comme croyant, dans la vie en général, il y a des délais, il y a des moments d'attente. Des fois, on se demande, pourquoi, Seigneur? Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long avant que tu interviennes? Pourquoi c'est si long avant que telle personne pour qui je prie depuis des années, on dirait que plus je prie pour elle, plus son cœur est dur. Avez-vous déjà vécu ça? Tu pries pour quelqu'un, tu pleures, Seigneur, sauve-la, ramène-la à toi. Et lorsque tu lui parles, on dirait que son cœur est plus dur. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi les délais? J'aimerais vous proposer ce matin qu'il y a une réponse incroyable dans ce texte plus tard sur le pourquoi deux jours, et je vais vous revenir. Mais dans la vie chrétienne, les délais sont utilisés par Dieu pour fortifier notre foi. C'est facile d'avoir la foi quand tu as tout facilement dans ta vie. C'est facile. Mais la foi authentique se bâtit dans les moments d'attente, dans les moments de douleur parfois, dans les moments de souffrance, et on ne veut pas passer par là, mais ça fait quand même partie de la vie chrétienne, d'avoir ces moments d'attente, ces moments de douleur, ces moments qui ne sont pas faciles. Il y a un texte qui va apparaître à l'écran, et je vais vous le lire, c'est Romains 5, versets 3 à 5, si on peut l'afficher, parce que je ne l'ai pas dans mes notes. Ça dit, « Bien plus, nous sommes fiers même dans nos détresses. » Fiers dans nos détresses. C'est spécial, hein? Mais des fois, c'est ça la vie chrétienne. Sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si Dieu veut bâtir une espérance solide en nous, nous devons traverser des détresses afin de développer la persévérance et de vivre des victoires. Et lorsqu'on vit ces victoires, notre espérance est bâtie, notre foi est bâtie, et nous devenons de plus en plus ces chrétiens, de plus en plus solides pour Dieu. C'est le temps des vacances en ce moment, c'est les vacances de construction qui viennent de commencer. Et y a-t-il des parents dans ce lieu de jeunes enfants? Laissez-moi voir vos mains, c'est des parents de jeunes enfants. Tu peux lever ta main, d'accord? Y a-t-il des parents de vieux enfants aussi? Tu peux lever ta main? Ah, OK, il y en a deux, OK. Pourquoi vous levez la main, mes parents? OK. Une des phrases qu'on entend souvent dans ce temps-ci, dans les voitures du Québec et du monde entier, c'est « Quand est-ce qu'on arrive? On arrive quand? C'est long! » Combien vous avez déjà entendu cette phrase-là de votre enfant? Et des fois, même, tu fais un long voyage, tu t'en vas en Gaspésie, tu as 12 heures d'auto à faire, tourne le coin de la rue de chez vous, hein, la voiture pleine de bagages, puis de tout ce qu'il faut. L'auto, elle roule de même, elle est pesante. Et là, tu tournes le coin de ta rue, ça fait une minute que tu es parti, puis là, ton enfant te dit, « On arrive-tu bientôt? » Non, il reste 12 heures, on s'en va voir le rocher percé ensemble. Et des fois, on est comme ses enfants avec Dieu. « Seigneur, c'est long. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas-tu intervenir? Seigneur, c'est long. Arrives-tu bientôt, Seigneur? » J'aimerais te dire aujourd'hui que si Dieu est au volant de la voiture de ta vie, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de dire « Seigneur, c'est long, c'est quand que tu vas intervenir? » Si Dieu est aux commandes de ta vie, la destination vaut l'attente. Ça vaut la peine de faire confiance à Dieu, même lorsqu'il y a des délais. De ne pas perdre ta foi. Il y a des chrétiens qui perdent leur foi à cause des délais. Et Dieu veut fortifier ta foi dans les délais. Dieu veut que tu t'attaches à lui parce que Dieu veut te répondre. Dieu veut agir dans ta vie. Amen! Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, il s'est endormi, il sera guéri. » Les disciples pensaient que Jésus disait que Lazare dormait. Donc, je ne sais pas pourquoi ils pensaient ça. Verset 13. « En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » Ça, c'est tout un disciple. J'essaie de comprendre pourquoi il disait ça. Et on peut le comprendre comme une phrase de foi aussi. Il peut dire parce que Jésus a été menacé de mort, bien sûr. Et puis peut-être qu'il disait, « Allons-y, puis on va mourir avec Jésus. » C'est peut-être ça qu'on peut comprendre. Mais j'aime mieux le comprendre de la façon que vous l'avez compris aussi, qui est un peu drôle. Mais Jésus va dire, « Il est mort, Lazare, puis je me réjouis de ne pas avoir été là. » Ça peut sembler des paroles dures. Ça peut sembler des paroles qui manquent de compassion. « Il est mort, puis je suis content de ne pas avoir été là. » Pourquoi il dit ça, Jésus? Mais la raison pour laquelle il dit ça, c'est pour bâtir la foi de ses disciples. « Afin que vous croyiez. » Je me réjouis que je n'étais pas là. « Afin que vous croyiez. » Et Jésus est préoccupé à bâtir la foi dans ton cœur et dans ta vie. Il est préoccupé à solidifier la foi dans ta vie. Si on y pense quelques instants, Jésus voulait fortifier la foi dans le cœur de ses disciples. Parce qu'un jour, il allait mourir, ressusciter, et ses disciples allaient eux-mêmes démarrer l'Église, telle qu'on la connaît. Ils allaient eux-mêmes être les piliers de l'Église sur la planète Terre. Leur foi devait être bâtie. Ils devaient saisir qui était Jésus réellement. Ils devaient saisir qu'il était la résurrection et la vie, comme il va le dire dans un verset plus loin. Ils devaient le comprendre. La foi devait être bâtie dans leur cœur et dans leur vie. Colossiens 1, 23 nous dit, « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Dieu veut qu'on reste fondés et inébranlables dans la foi. 1 Pierre 5, 8 nous dit, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Est-ce que votre foi est inébranlable ce matin? Est-ce que votre foi est solide ce matin? On continue le verset. « Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu veut fortifier notre foi. Et notre foi grandit et est fortifiée alors que nous traversons des épreuves, des souffrances, des délais. On aimerait que ça se passe autrement, mais ça ne se passe pas autrement. C'est alors qu'on traverse les défis de la vie et qu'on s'accroche à Dieu que notre foi grandit. C'est comme ça que ça se passe. C'est un peu comme ceux qui font de la musculation. Des gens qui s'entraînent, s'ils veulent voir leurs muscles grossir et devenir baraqués puis marcher comme ça, là, il faut qu'ils travaillent leurs muscles. Il faut qu'il y ait au gym, puis qu'ils fassent toutes sortes d'affaires de gym, puis qu'ils souffrent, puis qu'ils mettent leurs muscles à dure épreuve afin d'avoir des muscles qui grossissent. Il y a quelques années, j'ai bâti, j'étais dans Charlevoix, puis on voulait bâtir une maison, on a acheté un terrain, le terrain était boisé. Et là, je me suis dit, il va falloir enlever ces arbres-là si on veut mettre une maison là-dessus. Donc, je suis allé m'acheter une scie à chaîne, une steel. C'est la marque. Et là, je suis allé sur YouTube, comment utiliser une scie à chaîne. Là, j'ai regardé des vidéos comme ça. Et je suis parti avec la scie à chaîne, l'huile, le gaz mélangé, puis avec toutes les affaires, l'équipement, les trucs de protection. Et j'ai commencé à couper des arbres, puis j'ai pris plaisir à ça. Et pendant 6 mois, donc j'aime la nature quand même, là, mais il fallait mettre une maison. Et pendant 6 mois, j'ai coupé des arbres comme ça. Et à ma grande surprise, j'ai pris 30 livres en 6 mois. Pas juste des muscles, là, pour vous. Mais j'ai quand même pris 30 livres. À force de travailler, à force de bouger à 2 heures par jour, suer à grosses gouttes, transporter des billots de bois, je me sentais comme un bûcheron québécois d'antan. C'était fantastique. Mon corps s'est mis à changer. Je me suis mis à être transformé parce que je bougeais, parce que j'étais dans l'action. Si tu veux que ta foi grandisse, accepte que les moments de travail, de difficulté, de persévérance, d'épreuve, lorsque tu restes attaché à Jésus dans ces moments-là, quelque chose qui se passe dans ta vie. Tu ne le vois peut-être pas, mais il y a une transformation qui se passe dans ton cœur. Tu es en train de ressembler de plus en plus à Jésus. Ta foi est en train d'être bâtie. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu veut bâtir notre foi. Dieu veut nous transformer à son image. Au verset 17, on lit ceci. « À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, maintenant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Verset 25. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et Jésus ici fait une déclaration incroyable, vous en conviendrez avec moi. Il va dire quelque chose de fort, de puissant. Il va dire, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et Jésus nous parle ici, oui, il va ressusciter Lazare dans un instant, il va prouver par un geste concret ces paroles qu'il vient de dire. Ce n'est pas des paroles en l'air, parce que quelques instants après, il va littéralement ressusciter un mort qui était dans un tombeau depuis 4 jours. Il va prouver qu'il est vraiment la résurrection et la vie. Il va dire, ceux qui croient en moi, lorsqu'ils vont mourir, ils ne vont pas vraiment mourir, ils vont avoir la vie éternelle. Vous saviez cela? Qu'en tant que croyants, nous avons l'espérance qu'après notre mort, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre encore. Nous allons vivre pour l'éternité avec Jésus. Et ça, c'est une bénédiction extraordinaire. C'est une bénédiction, c'est comme si pendant que je préparais ce message, le Seigneur me mettait à cœur, réalises-tu à quel point c'est « wow », la vie éternelle? Réalises-tu à quel point c'est magnifique? À quel point c'est spectaculaire? Et glorieux. J'ai écrit une petite phrase qui va apparaître à l'écran. Essayez de suivre, d'accord? Ça dit, Lazare est mort. Jésus l'a ressuscité. Mais plus tard, Lazare est remords. Il n'est pas vraiment remords. Car à cause de sa foi en Jésus, il n'est pas vraiment mort. Mais après que l'enveloppe de son corps s'est éteinte pour la deuxième fois, il a été vivant et a accédé à la vie éternelle avec Jésus-Christ. Vous savez, Lazare, il est mort, Jésus l'a ressuscité, mais il est remort. À moins qu'il soit ici parmi nous. Est-il là? Non, il n'est pas là. Donc, il est mort. Mais quand il est mort la deuxième fois, il n'est pas vraiment mort. Parce que sa foi en Jésus l'a sauvé. Il a passé l'éternité, il est encore là avec Jésus. On va le rejoindre éventuellement. Et qu'est-ce qui est le plus grand des miracles, ce n'est pas la résurrection de Lazare, mais c'est la vie éternelle que Jésus nous offre pour toujours. Nous étions destinés à la mort. Nous étions destinés à l'enfer. Nous étions séparés de Dieu par nos péchés. Mais Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité. Il nous donne en cadeau la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce cadeau de la vie éternelle? Bonne gorgée. Il y a quelques années, je suis parti en vacances avec ma famille. D'ailleurs, c'est le thème de ce matin, on dirait, les vacances. Et peut-être que j'ai hâte aux miennes, c'est peut-être pour ça que c'est dans mon message. Mais on est parti ensemble sur la côte nord, aux îles Mingan. Est-ce que quelqu'un ici sait c'est où ou connaît les îles Mingan? Lève ta main si tu sais c'est où et tu connais. Je vois cette main. Quelques personnes à peine. Un des plus beaux endroits du Québec. C'est vraiment fantastique. D'ailleurs, il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Une photo que j'ai prise alors que j'étais là-bas. Et c'est vraiment un endroit incroyable. Il y a des îles à visiter. Il y a plus de 1000 îles qu'on peut visiter. On peut se rendre en bateau là-bas. Et il y a des structures comme ça qu'on appelle des monolithes. Okay? Et il y a une colonie de macareux, qui est une sorte d'oiseau vraiment rare et spécial. Et il y a une végétation qui est tout à fait spectaculaire. Ça a été un très, très beau voyage. Quand on était sur ces îles-là, on avait l'impression d'être sur une autre planète. L'impression d'être sur Mars ou je ne sais trop où. C'était fantastique, un beau voyage en famille. Mais pour se rendre à cet endroit-là, il fallait prendre un bateau. C'était des îles. Et cette image-là aujourd'hui, je la ramène à la vie éternelle. Si tu veux accéder à l'endroit fantastique de la vie éternelle, la vie abondante avec Dieu, le chemin pour te rendre, la façon de te rendre, c'est par la foi. C'est par la foi en Jésus-Christ. Jésus va dire, je suis la vie, je suis la résurrection. Si tu meurs, tu ne meurras pas vraiment, tu vas vivre éternellement. Puis là, il va dire une petite phrase, crois-tu cela? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu le crois? Est-ce que ta foi est solide? Est-ce que ta foi est placée en moi? Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que pour accéder à la vie éternelle, à la vie abondante, ça prend la foi. Ça prend une foi qui est fortifiée, une foi qui est bâtie par Jésus-Christ. J'aspire à cette foi. Je désire plus de cette foi dans ma vie. Amen. Yes. Verset 28. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre. Elle alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais elle était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui le consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ah, même chose que sa sœur. En la voyant pleurer, et elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné, bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? »« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Verset 35, Jésus pleura. Moment spécial dans ce texte. Les Juifs lui dirent, « Vous voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? » Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. Comme une parenthèse dans ce texte, depuis le début, Jésus dit des affaires de puissance. Cette maladie va servir à la gloire de Dieu. Je suis la vie, la résurrection, etc. Puis là, Jésus a comme un moment où il pleure, où il est indigné, où son esprit est retourné à l'intérieur de lui. Et moi, je vois un moment là-dedans où la compassion humaine rencontre la puissance divine. C'est que notre Jésus qui est venu sur cette terre était pleinement humain et pleinement Dieu à la fois. Et je lisais un peu là-dessus, il y a toutes sortes de commentateurs qui disent toutes sortes de choses à ce propos. Mais moi, ça me touche juste de voir la compassion, le cœur, l'amour, la douceur, les émotions de Jésus dans ce texte. On arrive au verset suivant. Vous allez voir, c'est là que ça se passe. Vous êtes là? Okay, attachez-vous à votre chaise, là. Il va se passer un miracle. Ça va être quelque chose. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre! » Marie, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est ici. » Quelle phrase savoureuse, quand même. Jésus va dire, « OK, tassez-moi cette roche-là, c'est là que ça se passe, on va le ressusciter, Lazare, bougez-vous tout le monde. » Puis là, la sœur de Lazare, le texte nous dit, la sœur du mort, il est mort. La sœur du mort dit, « Mais oui, mais Seigneur, c'est parce que ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Il est déjà en train de se décomposer, Seigneur. C'est fini, Seigneur. Oublie ça, Jésus. Il est mort. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il sent déjà. Et moi, j'aime cette phrase-là. J'aime la phrase « il sent déjà ». Je trouve que c'est beau. Pourquoi Jésus a attendu 2 jours avant de se rendre là-bas? Je vous propose que Jésus voulait attendre que Lazare sente déjà, afin que son miracle qu'il allait accomplir soit sans équivoque. Que tout le monde sache, regardez, il sentait déjà. Vous le saviez, ça faisait 4 jours qu'il était là-dedans. Je l'ai ressuscité quand même. Il voulait amener et fortifier la foi des gens qui allaient être là pour dire, regardez, je suis capable de ressusciter quelqu'un qui sent déjà. Ne pointez personne, s'il vous plaît, ce matin. Personne qui sent déjà ici. Mais l'application, c'est qu'il y a peut-être une situation dans votre vie qui sent déjà. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie pour laquelle vous avez perdu espoir. Vous vous dites, non, ça là, Dieu ne pourra pas intervenir. C'est rendu trop loin, c'est trop difficile, c'est fini, it's over. Ça sent déjà. Mais Dieu peut intervenir dans les situations qui semblent désespérées, sans espoir. La Bible nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Et ce matin, je veux encourager quelqu'un qui a perdu espoir. Je veux encourager quelqu'un qui est découragé. Peut-être que c'est ton couple qui est au bord du gouffre. Peut-être que tu as perdu espoir pour le salut d'un proche. Peut-être que tu te sens appelé au ministère, puis on dirait que c'est des portes fermées après portes fermées. Tu ne comprends pas pourquoi. D'autres, c'est une maladie qui revient et qui te condamne. Ou la maladie qui touche quelqu'un que tu aimes. D'autres, c'est une dépendance qui demeure. Tu essaies de te départir, tu essaies de te libérer de cette dépendance, mais ça reste. On dirait qu'il n'y a rien que tu peux faire qui fait en sorte que tu deviens libre enfin. D'autres, c'est un conflit qui s'éternise. Tes finances qui crashent. Des déceptions, du découragement, de la difficulté. Si tu vis une situation, si tu vis une situation qui sent déjà, j'aimerais te redonner espoir ce matin. Pas un faux espoir, un vrai espoir, parce que Jésus est la résurrection et la vie. Il peut encore intervenir, il peut encore sauver, il peut encore guérir et transformer. Il est Dieu, il est tout-puissant. Est-ce que je peux entendre un amen? Verset suivant, Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. » Et j'arrête ici un instant. Jésus veut implanter la foi dans le cœur de ses disciples, mais là, ici, il va faire une prière avec foi. Il va commencer en disant « Merci ». Il va commencer en disant « Père, je te remercie. » Je te remercie. Et j'aimerais vous inviter ce matin à développer une vie de prière de foi. Pas « Seigneur, si tu veux bien répondre à un moment donné, ça ne serait pas pire. » Mais plus une prière qui dit « Seigneur, merci. Merci que tu vas agir. Merci que tu vas intervenir. Mes yeux ne le voient pas encore. Je vis encore ce problème, cette difficulté. Mais Seigneur, je te dis merci à l'avance. Je te dis merci à l'avance que tu veux agir, que tu vas agir, que tu vas intervenir. » Qu'on puisse être de ceux qui prient avec foi, qu'on prie des prières de vie, des prières de foi. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Hein? Encore la foi qui est au cœur. Verset 43, et on arrive à la fin, j'ai invité les musiciens à s'approcher. Verset 43, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Hey, quelle scène! Imaginez avoir vécu ce moment-là. Hey, il y a une foule, il y a des gens qui sont là, la pierre est tassée, la pierre est roulée. Et là, Jésus va prier à haute voix, puis il va dire, « Lazare, sors! » Là, tout le monde qui regarde, tout le monde qui est comme, « Ça va-tu marcher? J'espère que ça va marcher. Sinon, ça va être bizarre. Ou ça va être drôle. Ou ça va être triste. » Mais là, il voit le gars qui sort avec des genres de momies, de bandelettes autour d'eux. Ils se disent, « Ah, c'est même pas l'Halloween! » Puis il y a quelqu'un déguisé comme ça. Non, c'est pas vrai. Lazare est là. Imaginez-le. Imaginez-le. Lui qui sentait déjà, sentait bon maintenant. Lui qui était en train d'être décomposé, il est revenu à la vie. Il a enlevé les bandelettes, puis le gars, là, il a continué à vivre. La Bible ne nous dit pas combien de temps encore, mais il est pleinement redevenu vivant. Et Jésus veut faire ça dans ta vie. Jésus veut faire ça dans nos vies ce matin. Jésus veut nous démontrer sa puissance, sa gloire. Il veut intervenir dans une situation impossible dans ta vie. Il est Dieu, il est extraordinaire. Et j'aime le fait que Jésus a dit avec conviction, avec foi, il a déclaré « Lazare, sort ». Et en tant que croyant, on veut prier avec foi et parfois on veut faire des déclarations de foi. Comment est-ce que tu parles? Est-ce que tu as le langage de la foi? Est-ce que ta bouche est pleine de paroles de vie et de foi? Le Seigneur t'appelle à ça. Le Seigneur t'appelle à parler avec foi, à déclarer avec foi. Et la Bible est remplie de promesses, vous savez. La Bible est remplie de promesses puissantes. Et je vous en lis juste quelques-unes en terminant ce matin. Des promesses extraordinaires. Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Tu peux le déclarer ce matin. 1 Timothée 2, 4. « Lui qui désire que tout les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Jean 16, 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » 1 Jean 1, 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Matthieu 28, 20. « Et moi, je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde. Combien vous avez envie de dire avec moi, « Seigneur, augmente ma foi ce matin. Seigneur, je veux rien savoir d'une vie chrétienne ordinaire. Je veux rien savoir d'une vie chrétienne plate. Je veux rien savoir d'une vie chrétienne de routine. Je veux vivre par la foi. Je veux prier avec foi. Je veux marcher avec foi. Je veux croire en toi sans douter, mon Dieu. » Combien vous voulez ça dans votre vie? Le verset 45 nous dit « Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. » On parle de foi tout le long dans ce chapitre-là. Ceux qui ont vu Jésus ressusciter Lazare ont placé leur foi en Jésus. Puis le verset 46, c'est important de mentionner aussi. « Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. » Il y a des gens qui, devant le miracle, ont conservé un cœur dur puis sont allés stouler Jésus aux pharisiens pour comploter pour sa mort. Et moi, j'en reviens pas qu'il y a des gens qui ont fait ça. J'en reviens pas. Écoute, tu vois Jésus ressusciter un mort qui sent déjà, avec les bandelettes autour puis qui s'enlève tout ça sur lui. Ta réaction, c'est d'aller stouler Jésus puis de vouloir qu'il meure. Ça veut juste dire qu'il existe des gens qui conservent un cœur dur. Et quand on lit la Bible, on voit que jusqu'à la fin des temps, même dans l'Apocalypse, il y a des gens qui vont voir Jésus face à face à la fin des temps puis qui vont encore lever le poing contre lui puis lui faire la guerre. Et moi, ça me rappelle que je veux veiller sur mon cœur. Je veux veiller sur mon cœur. Je ne veux jamais être de ceux qui s'endurcissent au point de voir le miraculeux puis de faire comme si rien n'était. Le but de ce chapitre, c'est augmenter notre foi. J'aimerais même aller plus loin. Le but de l'Évangile de Jean, c'est d'augmenter la foi de ceux qui allaient lire cet Évangile. Jean 20, 30 nous dit, « Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Tout l'Évangile de Jean a été écrit pour fortifier notre foi. Et en terminant, ma prière, c'est, je la trouve dans Luc 17, 5, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Terminant ce matin, je prie que Dieu augmente notre foi. que Dieu vienne nous fortifier, que Dieu vienne nous changer. Peut-être que tu as perdu espoir ce matin, peut-être que tu te décourages d'une situation que tu vis en ce moment. Et je te comprends, ça nous arrive tous d'être découragés, d'être déçus, d'être attristés, de vivre des douleurs. Mais ce matin, je voudrais venir t'encourager à placer ta foi en Jésus dans l'épreuve. Fais-lui confiance. Tu ne seras pas déçu. Jésus t'offre la vie éternelle. Jésus est là. Jésus veut intervenir dans ta vie. On a vu ce matin que Jésus n'est pas pris de court avec nos défis, que parfois Jésus retarde son intervention, qu'il faut apprendre à gérer les délais. On a vu que Jésus veut rendre notre foi inébranlable, qu'il nous offre la vie éternelle. On a vu ce moment où la compassion humaine rencontre la puissance divine. On a vu que Jésus peut ressusciter un mort qui se sent déjà. On a vu qu'on est appelé à prier avec foi, commencer par remercier, à déclarer la foi. Et en terminant ce matin, on va prier ensemble. Seigneur, augmente ma foi. Est-ce qu'on peut pencher la tête en terminant ce matin? Se recueillir devant Dieu. Humblement devant notre Créateur. Humblement devant ce Dieu Tout-Puissant. Dans un instant, on va chanter, on va louer Dieu. Mais juste avant, j'aimerais faire deux appels ce matin, deux invitations. Mon premier appel ce matin serait pour quelqu'un dans ce lieu qui n'a pas encore placé sa foi en Jésus. Tu es ici aujourd'hui, tu viens à l'église, peut-être que c'est ta première fois, peut-être que tu es venu plusieurs fois, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore cette assurance de la vie éternelle qu'on parlait aujourd'hui. Ce matin, ce que je t'invite à faire, si c'est toi, c'est de dire, « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je veux t'inviter dans ma vie. Je veux accéder à cette vie éternelle. Je veux te connaître personnellement. » Alors, si tu es ici dans ce lieu ce matin et que tu as besoin de donner ta vie à Jésus, tu ne le connais pas encore personnellement, intimement, ou encore tu le connaissais, mais tu t'es éloigné de lui. Tu t'es éloigné de lui pour différentes raisons. Ce matin, je te donne l'opportunité de revenir à lui, de lui donner ta vie, de lui donner ton cœur. Alors, si tu es dans ce lieu, pendant que tout le monde a la tête penchée, en recueillement, les yeux fermés, et tu aimerais donner ta vie à Jésus ce matin, accéder à la vie éternelle, je t'invite à lever ta main bien haut et à dire, « Moi, Seigneur, je te donne ma vie ce matin » ou « Je te redonne ma vie ce matin ». Merci pour les mains qui se lèvent un peu partout dans ce lieu. Dieu vous aime. Dieu vous accueille. Comme Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare, Jésus t'aime toi aussi. Et alors que tu lèves ta main d'un cœur sincère, Jésus t'accueille ce matin. Il pardonne tes péchés. Il te redonne un nouveau départ avec lui. Lorsque tu as levé ta main, tu peux la rebaisser par la suite. On va prier ensemble dans un instant. On va prier pour toi. Mon deuxième appel ce matin, c'est pour des gens dans ce lieu. Tu as besoin que ta foi soit fortifiée. Tu vis quelque chose de pas facile en ce moment, puis tu as besoin de courage. Tu as besoin d'une dose de courage. Tu as besoin d'une dose de foi, d'une dose de persévérance qui vient de Dieu pour passer à travers ton épreuve. Alors, si c'est toi ce matin, lève ta main et dis, « Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Sans toi, j'y arriverai pas, mais avec toi, je peux traverser n'importe quelle épreuve. Tu es Dieu, tu es vivant, tu as ressuscité Lazare, mais toi-même, tu es ressuscité aussi. Lève ta main devant Jésus, Seigneur, implore son nom ce matin, implore-le ce matin, prie. Et dis, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, fortifie-moi. Redonne-moi espoir, redonne-moi courage. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble ce matin? On va chanter un chant. Transformons cette église. Transformons ce lieu en un lieu de prière, en un lieu de louange, en un lieu où on se tourne vers Jésus. Prenons quelques minutes ce matin avant de se quitter.